décembre, 14 de février, de Cerveau et Psycho, avec son rédacteur en chef Sébastien Boller, et puis Jacques Fischer-Locou, qui est avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste des effets sociaux du toucher, et Bernard Andrieux, philosophe des pratiques culturelles, justement, avec un téléphone qui est en train de sonner, mais qu'on va couper dans un instant. Beaucoup de messages des auditeurs pour Bernard Andrieux. Marie-France nous dit ceci. Quelle relation est-ce qu'on peut établir entre le toucher et la cognition ?
Oui, disons que le problème, justement, c'est les différents niveaux d'activation dans le corps. Hein. Nous, ce qu'on essaie de faire en philosophie du corps aujourd'hui, c'est de distinguer peut-être trois types de toucher. On va dire un toucher dont on va parler dans quelques instants, justement, qui est un toucher plutôt inconscient dans son impact. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire il y a un impact dans le corps vivant, dans la vie affective, qui n'est pas forcément conscientisé. Voilà. Ensuite, il y a un toucher... comme on le disait à l'instant, c'est-à-dire conscient, c'est-à-dire un toucher finalement où là je vais être volontairement en train d'agir avec une intention hein, pour désigner un but ou attraper un objet ou voir atteindre autrui. Et puis ensuite il y a un certain nombre d'instruments qu'on voit justement dans le numéro de Cerveau et Psycho qui nous permettent de décrire finalement, d'objectiver, hein, de voir quels sont les effets objectifs à travers des mesures hein, oui. d'activation et d'intensité. Et ça, aujourd'hui, c'est tout à fait possible avec la multiplication des capteurs.
Alors ça, justement, c'est l'apport des neurosciences, hein, Sébastien Boller. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine, avec donc la compréhension du pouvoir émotionnel du toucher via, justement, ces fibres nerveuses. Vous l'expliquiez un petit peu tout à l'heure. On peut rentrer un peu dans les détails, Sébastien, pour comprendre comment ça fonctionne.
C'est important, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle du toucher, on confond un petit peu tout. Si je dis je touche cette table ou je touche ce stylo, j'utilise effectivement des fibres qui sont connues depuis très longtemps, des neurones qui s'appellent des fibres de type A qui ont une fonction pratique en fait hein, pour agir sur notre environnement. C'est rien d'émotionnel, c'est pour savoir où notre corps se situe, pour voir quels objets on déplace, comment on les déplace. Mais plus récemment, on a découvert un autre type de fibres tactiles qu'on appelle les fibres de type CT. T pour tactile, fibre CT, voilà. Et ces fibres-là, elles sont très, très différentes des fibres A, parce que les fibres de type A, elles conduisent l'information très très vite. C'est-à-dire que si vous piquez avec un clou, c'est une fibre de type A qui réagit instantanément. Mm-hmm. L'influx nerveux se propage de votre pied qui a marché sur le cou jusqu'à votre cerveau à la vitesse d'un TGV. Hein. Donc c'est 100 mètres par seconde, c'est instantané. Mais ces fibres tactiles, elles réagissent beaucoup plus lentement à la vitesse d'un mètre par seconde. L'influx nerveux met un petit peu de temps hein, pour arriver jusqu'à votre cerveau.
Mm-hmm. On imagine la caresse, par
mais
exemple.
Mais voilà, c'est la caresse, exactement. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça se propage plus lentement? C'est parce qu'elles sont dépourvues de cette gaine de myéline. Vous savez, la myéline, c'est une espèce de gaine graisseuse qui entoure les neurones et qui accélère en fait l'influx nerveux. Alors elles, comme par un fait exprès, elles sont dépourvues de cette gaine de myéline et elles conduisent l'information beaucoup plus lentement. Il faut le temps que ce toucher s'installe. Et on a découvert en plus qu'elles sont activées quand on caresse la peau, donc quand on stimule la peau par un glissement à une vitesse très précise de 5 cm par seconde. C'est-à-dire que si vous caressez trop vite,
ouais, ça marche pas.
À 15 mètres par seconde,
ça marche pas de la même manière.
Une technique érotique à développer.
Voilà, il faut devenir scientifique de la caresse. Et ou trop lentement, ça marche pas non plus. Mais en fait, on le fait instinctivement. On sait une caresse, on le fait, et c'est 5 cm par seconde. Ouais. On voit qu'à ce moment-là, ces neurones déchargent très très fortement, et que le signal est adressé à une partie de notre cerveau qui s'appelle l'insula, une partie, un repli du cortex cérébral, qui centralise beaucoup d'informations sur notre état interne, l'homéostasie, la concentration en sels minéraux, la pression sanguine, tout ce qui est la sensation viscérale est concentrée par l'insula, et y compris les caresses. Donc les caresses ont une dimension viscérale, et cette partie de notre cerveau est connectée aussi à ce qu'on appelle le circuit de la récompense, donc ce qui est impliqué dans tous les plaisirs, hein, quels qu'ils soient, du sexe aux drogues, en passant par le fait de manger son plat préféré. Il y a des interactions entre la viscéralité, le plaisir et le toucher, et ces fibres-là.
Et là, on est dans ce que vous nommez, enfin dans ce qui est nommé la transmission des affects positifs, c'est ça, Sébastien ?
On transmet énormément d'affects positifs, effectivement, par une caresse, par la tendresse, par les massages aussi, puisque ça, c'est un autre aspect du dossier qu'on a voulu explorer, c'est tous les effets thérapeutiques du massage et le fait que ces émotions qui passent par des pressions sur le derme ou même musculaire, à ce moment-là, vont aussi faire libérer de l'ocytocine, qui est une hormone qu'on appelle l'hormone du lien, hein, du lien social, hein, qui est souvent en défaut aussi dans certaines formes d'autisme, et qui fait qu'on se sent appartenir au genre humain. Il y a beaucoup de patients qui sont traités comme ça en milieu hospitalier, qui vous disent qu'ils se sont sentis redevenir humains par ce contact et qu'ils n'étaient plus tenus à distance comme des objets de thérapie.
Ouais. Alors on va entendre justement, à l'occasion d'une séance d'aptonomie, un patient qui, pour la première fois, justement, va bénéficier de cette pratique. Un mot, peut-être Bernard Andrieux, pour dire comment ça se passe, l'aptonomie. qui est destiné aux bébés, mais pas seulement. Oui. Il y a aussi des adultes hein, qui
oui,
peuvent
au,
en faire.
Au départ, l'aptonomie, c'était effectivement pour accompagner les femmes enceintes. Hein. On faisait tout ce travail d'accompagnement tactile pour le corps. Et surtout, l'idée, c'était d'établir une interaction, finalement, entre les mouvements internes du corps, en l'occurrence le bébé, mm-hmm. hein, et puis les mouvements externes.
Voilà donc pour cette première séance.
Allez, venez. Mais on le fait ensemble. Mais c'est pas moi qui manipule. Ok. Et là, maintenant, vous sentez que c'est plus libre ?
Oui.
Là, je peux venir, il n'y a pas de résistance comme il y avait tout à l'heure. Donc, je vais amener votre jambe en dehors de la table de mon côté. Hein. Vous restez bien avec moi. Hein. Ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas dans la résistance. Hein, mais vous me suiviez dans le mouvement. Hein. Ça peut tirer un peu, je vais vraiment dans toute l'amplitude de votre mouvement. Et vous venez avec moi, vous me suivez un peu comme dans la danse. D'accord ?
Voilà ce que j'ai dessiné après une première séance.
Alors, comment le décririez-vous, vous ? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Il y a quelque chose de très solaire dans la rencontre à l'autre. Mmh. Il y a à la fois beaucoup de chaleur, il y a le sentiment, effectivement, de s'étendre comme un soleil. Une sorte d'énergie comme ça, très chaleureuse, très réconfortante. Mmh. Ça paraît une expérience, en fait, très fondamentale. Mmh. On est au centre de quelque chose.
Mmh. En fait, oui, c'est ça que vous dites, c'est vous devenez le centre de vous-même. Vous êtes mis au centre de vous-même et c'est très souvent que j'ai des représentations de cet ordre-là à la première séance.
Voilà, alors une pratique particulière de l'aptonomie, Jacques Fischer-Lecoux, mais on peut la commenter, élargir un petit peu avec les impressions justement de ce patient qui parlait d'une sorte de rencontre à l'autre et d'une expérience fondamentale. Hein.
Oui, en fait, le toucher permet de partager des émotions. Et nous avons besoin d'émotions, dont on parlait tout à l'heure, d'émotions positives pour vivre. En fait, on ne recherche que des émotions positives, que ce soit à travers le regard, le contact, et surtout le toucher. Alors, dans notre société, le regard, il est naturel, mais le toucher, il a d'autres propriétés que le regard ou que le sourire. Puisqu'il s'adresse à une personne, il est nuançable. On ne touche pas n'importe, on peut sourire à n'importe qui, mais le fait de toucher s'adresse à une personne.
Alors justement, Sébastien Boller, il y a une sorte de carte assez amusante sur les zones du corps et les liens de parenté en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas aller partout sur le corps en fonction de l'affinité et de l'intimité qu'on a avec la personne.
Oui, alors ça c'est une étude qui est parue il y a quelques mois et justement qui a été menée, je crois, au Royaume-Uni. Où les scientifiques ont essayé de comparer, ils ont mesuré en fait la surface du corps de quelqu'un que vous pouvez toucher, alors, avec des questionnaires et des études de comportement sur des dizaines et des centaines de sujets. Et ils ont comparé ça au degré de parenté, au degré de proximité émotionnelle. Et la corrélation montrait une droite, c'est-à-dire que c'est vraiment linéaire. C'est-à-dire que plus la surface du corps que vous êtes autorisé à toucher est importante, plus on se rend compte que la personne fait partie de votre cercle rapproché.
Donc son conjoint, par exemple, le sa conjoint, conjointe, on carte. Peut la toucher partout, a priori.
Voilà, on voit une carte qui représente l'ensemble du corps avec des codes couleurs en fonction de la fréquence où on est touché. Donc on apprend déjà des choses sur le
corps. Ah bon, et alors qu'est-ce que ça donne
on touche beaucoup, effectivement, beaucoup sur l'épaule, hein, c'est la première zone, le bras. Mm-hmm. Après, il y a les joues hein, chez les conjoints, puis après, on descend sur la poitrine, et puis... puis les jambes, et puis ensuite la partie génitale. Mais, donc ça, c'est vraiment chez le conjoint. Et après, le degré de proximité suivant, c'est les enfants, évidemment, où on peut toucher presque tout aussi chez les enfants, bah, même s'il y a quand même des zones taboues, mais c'est très proche. Et quand on se déplace ensuite sur le cercle des frères et sœurs ou des parents, là, il y a un gros saut quand même. Mm-hmm. On ne touche pas, même son frère ou sa sœur, on ne le touche pas n'importe où. On voit qu'il y a des zones qu'on ne touche pas. On ne touche pas les fesses de sa sœur ou de son frère. Voilà,
ça ne se fait pas, il faut le rappeler à cette antenne.
Et puis plus on va avec les cousins germains, plus la carte du corps se restreint. Et après, quand vous arrivez au degré de proximité minimale qui est le quidam dans la rue, il ne reste plus que l'épaule.
Voilà, c'est l'épaule. Ce qui est à peu près tolérable.
Quand vous appelez quelqu'un, vous tapez sur l'épaule tout doucement. Ouais. Voilà,
ouais. Bernard Andrieux, c'est amusant, non ? Ça dit plein de choses aussi de nos relations.
Oui, il y a aussi, je pense que tu vas en parler tout à l'heure, c'est la question du statut social aussi, de la hiérarchie et de la distance sociale. C'est-à-dire finalement, je touche les gens. Là, dans le livre justement sur la maladie, on voit la question des malades qui sont chroniques et presque mourants, et on voit la difficulté finalement du personnel à continuer à maintenir le lien alors que le malade pose des problèmes physiques.
Il y a un témoignage d'Yves qui nous envoie ce message. Une de mes expériences les plus marquantes lors de mon long traitement post-leucémie a été simplement l'application de crème dans le dos par une aide-soignante la nuit pour adoucir les effets d'un rejet cutané. Elle avait une empathie qui passait dans ses mains. J'étais dans ma chambre protégée, isolée du monde extérieur et ces moments-là ont été un vrai bonheur.
Exactement, c'est exactement ça, c'est continuer à activer le vivant malgré tout.
Jacques Fischer-Lecoux.
Oui, en fait, c'est continuer également à activer l'intimité, ce qui fait le propre de nos relations humaines. Et on voit qu'effectivement, dans les centres pour personnes âgées, par exemple, effectivement, on a moins tendance à les toucher. On touche plus facilement des bébés, des enfants, alors qu'elles en ont besoin aussi. Et en fait, c'est un élément de souffrance supplémentaire pour ces personnes, en fait.
Et la hiérarchie à laquelle faisait allusion Bernard Andrieux, il y a eu des études aussi là-dessus.
Ah oui, il y a beaucoup d'études.
On ne touche pas son patron, évidemment, de la même manière.
Bien entendu que non.
Son collègue.
En fait, c'est un point très important puisque là, le toucher sert de marqueur social, c'est-à-dire il sert de marqueur et en fait, effectivement, il sert d'outil social également. Puisque dans un rapport social, il y a souvent un dominant et un dominé, et le dominant peut se permettre de toucher le dominé et en fait appuyer ou renforcer une requête, donc une demande. Lorsque c'est l'inverse, lorsque c'est le dominé qui touche, c'est moins favorable pour sa personne.
Ouais.
Donc par exemple, des tas d'expériences ont montré que lorsqu'un serveur touche un étudiant où effectivement il aura davantage un pourboire, mais lorsqu'il touche quelqu'un qui est célèbre, etc., effectivement, là il aura moins de pourboire parce qu'en fait il touche quelqu'un de dominant.
Il y a des études sur la persuasion justement via le toucher.
Ah, il y en a.
Comment on arrive à convaincre ou en tout cas à aboutir plus rapidement à ses fins selon qu'on est touché ou pas la personne?
Oui, alors justement, il y a tous les travaux de Nicolas Guéguin du laboratoire de
Rennes,
l'université de Bretagne Sud. Oui, du laboratoire de Van et Rennes, le CRP2C. Donc effectivement, il y a des applications dans le domaine du marketing, énormément. Dans un simple magasin, en fait, on sait que si l'on touche un client qui rentre dans le magasin, il passera plus de temps.
Ah bon ?
Il achètera davantage que si l'on ne le touche pas.
Ah bon ?
On sait. Alors ça peut être, effectivement.
Ça peut être contre-productif aussi, non ? On peut avoir des réactions inverses.
Bien entendu, mais en fait, on mémorise davantage aussi toujours celui qui nous a touchés. Donc en fait, c'est pratiquement tout bénéfice.
Bernard Andrieux.
Oui, c'est une empreinte. Hein. L'idée, finalement, c'est aussi stratégique. Hein. C'est-à-dire que quand on lit vos travaux. Les travaux de cerveau psycho, on voit, s'aperçoit que finalement, on peut avoir l'intention de créer volontairement une empreinte chez l'autre pour laisser une trace et finalement obtenir une récompense en retour.
Oui, il ne faut pas voir simplement l'aspect négatif du toucher dans le cadre de l'influence, puisqu'en fait, un médecin, on a fait des expériences à Vannes, un médecin qui touche un patient en lui recommandant des antibiotiques, eh bien, en fait, cela a bien montré que le patient va davantage suivre le traitement alors que s'il n'avait pas été touché.
I can't.
naturel.
Ouais, elle est... Enfin, on a tout essayé. Je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un la prenne dans ses bras avant qu'elle...
Le kangourou.
Quoi?
La façon dont tu tiens le bébé, ça s'appelle la méthode kangourou. On connaît plusieurs cas où cette position a aidé des grands prématurés à survivre. Regarde les chiffres, Karef, regarde.
Oh, la fréquence cardiaque remonte?
Oui. Et sa température est normale. Je crois que tu viens de mettre en marche le biorhythme de cette petite.
Juste en la tenant dans mes bras?
Enlève ta blouse.
Quoi? Non, vous, enlevez la vôtre.
Mais non, idiot, je te parle de la méthode kangourou. C'est plus efficace quand l'enfant est en contact avec la peau de sa mère. Là, elle va devoir se contenter de toi, mais... Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Mets-toi torse nu, vas-y!
Voilà, même dans Grey's Anatomy, on s'intéresse à la science et aux connaissances, par exemple, sur le peau à peau, Bernard Andrieux.
Oui, c'est une vulgarisation pratique et concrète, ouais, de cette théorie du peau à peau.
C'est ça. Il y a beaucoup de choses sur les bébés, hein, effectivement, dans ce domaine du toucher, Sébastien Boller. Hein.
Oui, c'est pratiqué depuis longtemps. On se doutait des effets depuis un certain temps. Il commence à y avoir des études randomisées, des études, ouais, qu'on appelle Cochrane. C'est des compilations de plusieurs études qui confirment qu'il y a un effet quand même sur la prise de poids, hein, du prématuré avec la méthode kangourou. Peau à peau, comme ça en posture semi-allongée, une probabilité de survie qui augmente et des arrêts respiratoires moins fréquents aussi. Donc la prise de poids rejoint l'idée qui était d'ailleurs présente grâce à Jacques Fischer dans le dossier, qui me disait que le toucher est une alimentation, oui, au même titre que la nourriture, hein, ce que disait Arlo aussi.
Mmh. Jacques Fischer, hein.
Oui, c'est ça.
Sur les bébés.
Ah, sur les bébés. Oui, c'est très important sur les bébés, puisque en fait, j'ai eu écho des premiers travaux qui ont eu lieu sur les bébés, c'était par rapport aux prématurés. En fait, au départ, on évitait de les toucher. On pensait qu'ils ne se développeraient pas, ils développeraient des germes, au contraire. Et en fait, on s'est rendu compte que les bébés survivaient davantage lorsqu'on les touchait.
On a tout fait à l'envers, au départ.
On a tout fait à l'envers. Ouais. Et puis, c'est grâce à un chercheur en Floride, je crois, qui a osé toucher des prématurés. Et puis, il a constaté qu'ils prenaient du poids et ils survivaient, alors que les autres avaient une espérance de vie beaucoup plus faible.
On en a parlé avec vous, Bernard. Oui,
sur l'histoire des prématurés.
Ouais. On pense que ça passe par l'angoisse, en fait, parce que cet effet existe aussi chez les adultes. Tiffany Field à Miami, qui est montré d'abord chez les prématurés, puis ensuite chez les adultes, qui a une baisse du cortisol. Il y a un effet anxiolytique, vraiment, au fait d'être touché, qui vient du fait que l'être humain, quand il se sent en danger, il associe ça au fait d'être isolé, parce que les chances de survie, c'est le groupe, hein, pour l'humain. Donc, tout signal et qui nous prouve que le groupe est là, que quelqu'un est là, fait baisser automatiquement l'angoisse, et ça se voit aussi chez les cancéreux.
C'est un des problèmes à propos de l'isolement sensoriel en prison. Hein, je veux dire, c'est pareil dans les EHPAD, c'est pareil dans les prisons, toutes les institutions qui laissent l'individu tout seul, sans contact tactile, ça pose d'énormes problèmes quant au développement de la dépression.
Suzanne nous dit, en tant que sage-femme, je propose régulièrement que les conjoints aident leur compagne à gérer les contractions de début de travail, mais aussi pendant la grossesse, par le toucher, le massage, l'effleurage.
Ah, ça, voilà, c'est tout à fait vérifié expérimentalement. Ça n'a pas été fait dans des contextes d'accouchement, mais le dispositif expérimental, vous savez, où on peut mesurer les réactions d'angoisse ou d'appréhension que peuvent avoir des gens quand on leur annonce qu'il va y avoir un choc électrique. Alors, bien sûr, ce n'est pas des chocs très douloureux, mais automatiquement, il y a des réactions d'angoisse qui se mettent en marche. Et dans ces expériences, alors la femme ou l'homme peut prendre la main de son conjoint et on voit que l'attente du choc électrique ne donne pas du tout la même perception subjective de la douleur. Il y a un effet apaisant et même si c'est, ouais, un inconnu, donc toute présence tactile automatiquement joue un rôle de tampon vraiment, ouais, qui absorbe les chocs de stress.
Voilà, l'anxiété et la douleur par exemple dans cet aspect de guérison, hein, du toucher qui est extrêmement important. Dans ce livre « Malade encore vivant » aux éditions Le Murmure, Bernard Andrieux, un petit livre que vous publiez, vous parlez justement de cette empreinte, hein, vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, l'empreinte du corps, cette mémoire aussi.
Hein. Oui, cette mémoire du corps, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans la maladie chronique que les patients dont nous parlons dans le livre, ce sont des gens qui sont dépassés justement par l'activité de leur corps vivant, et ils témoignent du fait que finalement, les croyances, les représentations qu'ils avaient dans leur conscience de qu'est-ce que c'était leur corps vivant, bien ça ne suffit pas pour contenir ça. Et donc justement, l'expérience du toucher, comme on le disait, ça permet d'apaiser, notamment dans l'accompagnement. Il faut toujours, effectivement, les malades se plaignent d'être souvent seuls par rapport à cette expérience-là, ce décalage.
Oui, il faut même rajouter dans le cadre de l'angoisse que en fait c'est un autre outil, le toucher, lorsque justement en ces moments difficiles, lorsqu'on assiste à quelque chose de grave, par exemple un attentat ou autre, les personnes qui ont subi ce choc en fait, ça ne sert à rien de leur parler, ou en tout cas de leur expliquer ce qui s'est passé. Souvent, c'est le toucher qui permet de réduire l'angoisse et l'incompréhension.
Ludovic nous dit ceci. Que penser de cette sensation d'être touché lorsqu'un être cher approche sa main avant même que la main n'ait vraiment été en contact avec la peau?
Oui, alors en fait, il y a des travaux sur l'effleurement et puis on l'associe aussi à l'effet Midas. En fait, on associe l'effet Midas, vous savez, alors en référence à ce, vous savez, ce roi grec qui touchait, qui avait demandé à Dionysos, puisqu'on parlait de Dionysos tout à l'heure, qui avait demandé à Dionysos de pouvoir tout transformer tout en or. Et en fait, malheureusement pour lui, ensuite, il en a beaucoup souffert, puisqu'effectivement, il ne pouvait plus s'alimenter. Donc l'effet Midas de tout transformer en or, en fait, on l'a associé. Vous savez, les scientifiques aiment bien donner un nom mythologique pour valoriser une recherche. Et donc l'effet Midas, c'est l'effet du toucher, et surtout du fait d'effleurer. Et les serveurs, par exemple, savent bien qu'en effleurant une personne, on peut avoir davantage d'effets lors d'une commande, par exemple, lors d'une suggestion pour une commande.
Un témoignage de Sophie, j'ai fait une expérience surprenante. Quand les choristes se touchent juste du dos, la main, l'ensemble et la sonorité du cœur est beaucoup plus cohérent. Ça marche à chaque fois. Sébastien Boller, chanter à l'unisson, quand ils se touchent vraiment physiquement le dos avec le dos de la main.
Je pense qu'il y a une sensibilité. Merleau-Ponty a développé ça autour du concept d'esthésiologie. Hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a une sorte de préconscience tactile qui s'effectue, que ce soit dans l'intercorporealité ou en groupe. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un pressentiment et un effet de groupe qui fait que il y a le toucher physique, il y a aussi le fait d'être ensemble, de faire corps.
Alors c'est intéressant que cette personne parle du dos de la main. Oui. Parce que les fibres tactiles de type CT sont effectivement connectées au dos de la main, parce qu'il y a des poils sur le dos de la main, et c'est la peau pileuse qui est garnie en fibres CT. Et la paume de la main n'est pas garnie de fibres CT, c'est une autre forme de toucher, c'est beaucoup moins affectif. Les caresses sont efficaces sur toute la peau pileuse, donc ils ont retrouvé ça avec leur cœur de chanteur, c'est magnifique.
Ouais. Mais voilà, les neurosciences qui viennent valider au fond cette observation de notre auditrice. Gérer les relations conflictuelles, par exemple, ça aussi, ça fait partie de vos travaux, Jacques Fischer-Lecoux, dans les effets sociaux du toucher.
Alors oui, ça c'est une application que l'on peut faire du toucher. Elle est même très importante, puisqu'on peut apaiser quelqu'un en le touchant. Parfois, il est préférable que de toucher quelqu'un plutôt que de lui parler. Parfois, souvent, vous avez remarqué que dans situation de conflit, on parle à quelqu'un, puis on exacerbe le conflit. Le simple fait de toucher, en fait, signifie à l'autre une certaine proximité, une certaine empathie, et en fait diminue évidemment le conflit. Et on l'a testé auprès de groupes en conflit, donc de négociateurs qui avaient pour tâche de simuler des négociations, et les médiateurs avaient pour tâche, dans certaines conditions, de toucher les négociateurs, et dans d'autres situations, de ne pas les toucher. Et on observait.
On se souvient de la fameuse poignée de main entre Arafat.
Voilà. On augmente la motivation et l'encouragement à l'accord, en fait.
Merci beaucoup à tous les trois. On a encore plein de choses à se dire sur le toucher. Je renvoie nos auditeurs au dernier numéro de Cerveau et Psycho, la force du toucher. C'est dans les kiosques avec cette nouvelle formule: aimer, soigner et communiquer. Toucher, se soigner par le corps, c'est aux belles lettres. On doit pouvoir trouver le livre encore, Bernard Andrieux. Oui. Et puis plus récemment, Malade encore vivant aux éditions Le Murmure. Et puis je vous signale qu'en mars, les 17 et 18 mars prochains, à la Cité des Sciences, dans le cadre d'un colloque de la Semaine du Cerveau, il y aura justement un rendez-vous sur le toucher. Toucher pour apprendre, toucher pour communiquer, en partenariat avec Univers Sciences. Fabrice Rouel, bonjour. Merci.